France Inter, franceinter.com. Interception.
Bonjour. C'est la love story de l'été, les Parisiens se sont mis au vélo. Ils ne sont pas les premiers. Il y a bien longtemps que d'autres villes comme La Rochelle ou Rennes sont équipées en vélo libre-service, mais il faut dire que l'opération parisienne est d'envergure. Chaque jour, les 15 000 bicyclettes grises déjà mises à disposition dans la capitale sont enfourchées près de 100 000 fois. Bertrand Delanoë peut se frotter les mains. L'opération Vélib pourrait, si le succès se confirme, favoriser sa réélection à la mairie de Paris en mars prochain. Mais la lune de miel va-t-elle se prolonger ? C'est ce que nous avons eu envie de savoir en allant faire un tour à Lyon où le même système a été mis en place en 2005. Un système dont la particularité est le nombre très important de bornes de location disséminées dans la ville. À Lyon, la bicyclette est grise et rouge. Elle a été baptisée Vélov. Il y en a un peu moins de 4000 et l'abonnement est quasi gratuit. 1 euro la semaine, 5 euros l'année, contre 1 euro par jour à Paris et 29 euros à l'année. Une inscription qui offre une demi-heure d'utilisation gratuite. Le régime de faveur lyonnais s'explique. La ville a en effet servi de laboratoire à JC Deco, l'entreprise qui gère le service parisien. Dans les deux cas, elle a négocié de juteux contrats d'affichage en échange de la gestion des vélos. En 2 ans, ce mode de transport étendu à Villeurbanne a largement séduit les Lyonnais. Mais cela a-t-il changé les comportements en ville ? Y a-t-il beaucoup d'accidents ? Qu'en pensent les piétons ou les chauffeurs de taxi ? Quelles ont été les bonnes et les mauvaises surprises pour le loueur et la ville ? Voici le reportage de Claude Cordier avec Chantal Nouvelot pour la prise de son. Vélib, Vélov, la ville à vélo.
Interception, le magazine de la rédaction.
On y est. C'est un gros bus, c'est impressionnant parce que ça prend de la place.
C'est un bus de 13 mètres, donc il contient 61 vélos et qui nous permet de faire de la livraison de grosses quantités sur la Croix-Rousse, très tôt le matin, avant que le marché se mette en place, et sur Saint-Just en deuxième partie de matinée.
Et là, alors c'est un gros moyen de déplacement, c'est-à-dire que ça gêne un peu la circulation, y compris à ces heures-ci, 7, 8, 9 heures, 10 heures.
Ah, effectivement, ouais, il faut que les automobilistes soient un petit peu compréhensifs. Hein.
C'est pour
mais tout le monde s'adapte. Et bon, comme on est quand même relativement connu maintenant sur la commune, sur les secteurs qu'on fréquente, bon, bah, les gens s'y habituent. Et souvent, on nous laisse la priorité et même parfois, on nous remercie. C'est gratifiant. Donc là, on va mettre des vélos en place sur la station de Saint-Irénée. Qui va en accepter une dizaine pour ce matin. Donc ils sont à disposition de beaucoup de la population estudiantine qui s'en sert pour redescendre en ville vers les universités.
Parce que là, on est donc sur la colline de Fourvière.
Hein, voilà, oui.
Et les vélos descendent, mais ils ne remontent pas.
Ouais, faut des tempéraments de sportifs avérés. On en a vu quelques-uns, c'est très rare.
Donc le trafic, en l'occurrence, que vous faites, cette régulation, c'est ça ?
C'est une régulation.
C'est prendre les vélos là où ils sont pour les remonter sur les collines à Lyon.
Ouais, c'est ça.
Allez-y.
On y va. Voilà. Donc on va enclencher les vélos. Et il y a un témoin sonore qui confirme le raccrochage. Voilà.
Ben parfait, bonne route, bonne journée.
Merci beaucoup, messieurs. À bientôt.
Comme Pascal Moisette, ils sont une cinquantaine à Lyon, chez JC Deco, à s'activer pour faire tourner correctement le système.
soit pour réguler le trafic des vélos, soit dans les ateliers, soit dans les rues pour des petites réparations, des remises en état des bornes et des stations. Ici à Lyon, le libre-service est en place depuis 2 ans. Les bientôt 4000 vélos rouges qui sillonnent la ville font maintenant partie du paysage. Des vélos un peu lourds, 22 kg, mais assez maniables, avec 3 vitesses, une sonnette et un panier porte-bagages à l'avant. Des vélos qui font aussi partie du quotidien des Lyonnais.
La description de l'utilisation, comment vous faites? Dites-moi.
Je passe ma carte.
La carte, alors quelle carte?
Ma carte Vélov que j'ai pris pour une semaine, pour 8 jours, parce que je ne suis pas abonné, j'habite pas à Lyon tout le temps. Et ensuite, donc je compose mon code et puis je fais retirer un vélo. Je choisis le vélo en fonction de l'état aussi, donc on le sélectionne sur la borne. Et puis une fois qu'il est sélectionné, là donc je choisis le 20. Parce que j'ai vu qu'il était à peu près en bon état et puis donc j'attends une vingtaine de secondes et la borne le débloque.
Alors ?
Hop ! Ben, on attend un petit peu, voilà. Puis dès qu'on a le clic, et ben on peut le. Enfin un long bip sonore, on peut le débloquer et le récupérer.
Concrètement le système Vélo, qu'est-ce que vous en dites ?
Moi j'aime beaucoup, enfin j'apprécie, c'est pratique et puis quand même beaucoup plus économique que le métro. Et puis en plus, ça permet de faire un petit peu d'exercice, on va dire ça.
D'accord, bah bonne route.
Bah merci. Bonne continuation.
Mon nom est Gilles Vesco, je suis vice-président de la communauté urbaine du Grand Lyon et chargé des nouvelles utilisations de l'espace public et à ce titre des modes doux de déplacement et à ce titre du projet Vélov.
Et à ce titre, Monsieur Vélov sur Lyon.
Si ça vous fait plaisir.
On va dire ça. Combien d'abonnés à Lyon ?
Alors, à Lyon et Villeurbanne, puisque c'est sur les territoires de ces deux villes-centres de l'agglomération, 60 000 abonnés, c'est-à-dire 10% de la population de ces deux villes. On tourne à 26 000 trajets par jour. 20 millions de kilomètres ont été parcourus dans les villes de Lyon et Villeurbanne en 2 ans, depuis mai 2005.
Et un vélo qui est utilisé ?
Un vélo, il est utilisé 10 fois par jour en moyenne, avec des pointes à 15. Et nous espérions, au lancement du système, que chaque vélo sortirait au moins une fois par jour. C'est vous dire les bonnes surprises que nous avons eues sur l'utilisation de ce système.
Alors là, le vélo, c'est bien joli. On amène du vélo dans les villes, on fait débouler 20 000 vélos comme à Paris, 4 000 à Lyon, mais c'est une politique globale qu'il faut.
Il y a l'intermodalité, et la complémentarité que représente le vélo par rapport au mode de transport en commun. C'est-à-dire qu'un automobiliste, s'il a en face de lui que les modes de transport en commun, qui représentent déjà une offre importante, il ne va pas forcément faire le saut. S'il a transport en commun plus vélo, là c'est une alternative crédible, parce que ça va lui permettre soit de commencer son trajet, soit de le terminer. Vélov prend quelques usagers au transport en commun, mais il en amène autant, et il représente une complémentarité à même de représenter une alternative crédible face à l'automobile.
L'automobile, le but de toutes les villes, c'est de la faire diminuer en centre-ville.
C'est le cas à Lyon et Villeurbanne, où depuis 2 ans, nous avons stoppé la croissance du trafic automobile. Et d'ailleurs, sur 2006, il a commencé de régresser. Pour la première fois, la voiture est minoritaire. Elle est tombée en dessous de 50% sur l'ensemble du Grand Lyon. Elle est tombée à 47%. Et comme la part modale du vélo est de 3%, dans notre grande paranoïa, nous pensons que c'est toute la différence et que le vélo a pu faire, avec l'aide des transports en commun, parce que c'est un travail d'équipe et un travail de synergie, le vélo et les transports en commun ont pu faire passer la voiture en dessous de la barre des 50%. Donc la voiture n'est plus majoritaire dans le Grand Lyon.
On élimine à une telle vitesse.
Le problème, c'est qu'un mec qui se fait contrôler sur son vélo en taux d'alcoolémie
supérieur à 0,5 est condamnable strictement de la même façon que lui retirer son permis de conduire s'il est titulaire d'un permis de conduire.
Comme un piéton aussi d'ailleurs. Hein. Le piéton en ivresse publique est réprimé, même si vous êtes à pied et que vous,
ouais, et vous êtes ivre. Voilà, mais c'est ça.
Oui. Ou téléphone ou guidon.
Ouais. Alors, bah, le débat a déjà commencé, mais on se trouve là attablé au bar de la radio, comme de bien entendu. Je vais vous demander de vous présenter, messieurs, d'abord.
Donc bonjour, je m'appelle M. Hernandez Emmanuel, je suis président du syndicat professionnel des taxis. Je représente une des trois fédérations françaises des artisans taxis.
Bonjour, je suis Nicolas Igersheim, je suis président de l'association La Ville à Vélo, qui s'efforce de promouvoir le vélo en tant que moyen de déplacement urbain sur l'agglomération lyonnaise.
Alors c'est pas vélo contre voiture, mais quand même, depuis 2 ans, il y a 4000 vélos, ou bientôt 4000, ce sera en octobre, 4000 vélos qui déboulent à Lyon. À Paris, il y a un certain nombre de vélos aussi qui arrivent, ce sera 20 000 vélos en fin d'année. Un chauffeur taxi qui roule pendant 8 heures, 10 heures par jour, qu'est-ce qu'il en pense comme ça, rapidement ?
Le problème n'est pas réellement la quantité, le nombre de vélos, mais surtout, je trouve, la formation des cyclistes et le comportement des cyclistes. Pour nous, ce qui est très difficile, c'est à décrypter réellement quand on suit un cycliste ou qu'on précède un cycliste. Une voiture, c'est beaucoup plus simple. On s'en voit même avec les conducteurs, vu que les clignotants, c'est plus à la mode, plus personne les met. Mais un cycliste, pour nous, c'est compliqué à décrypter où il va aller, ce qu'il va faire. Et ça nous crée une tension supplémentaire en tant que conducteur et professionnel de la route.
Réponse.
Oui, c'est normal, là, d'un autre côté. Il ne faut pas oublier qu'à Lyon, on a multiplié le nombre de vélos par 4 ou 5 là, depuis le 19 mai 2005. Donc c'est essentiellement, au moins pour les utilisateurs de vélo, à 90%, des gens qui n'avaient jamais pris de vélo en ville avant. Donc ils n'ont pas les réflexes. Et puis le problème, c'est que lorsqu'on est vélo, on a tendance à agir en fonction de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend en règle générale, c'est la voiture qui arrive derrière, qui rétrograde. Elle rétrograde, donc automatiquement, son moteur ronfle. Donc on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Comme on n'a pas de rétroviseur, bien entendu, on ignore à quelle distance exacte il est et à quelle vitesse il roule. Donc on est comme un canard sur une mare, on attend le coup de feu, au lieu de continuer tranquillement.
Alors, quand même, est-ce que la ville est faite pour les vélos ?
En l'état actuel, non. Alors, bon, on se rend compte qu'il y a des municipalités qui jouent plus le jeu que d'autres. Alors bon, peut-être Paris vient juste d'avoir des vélos, mais je pense que ça a peut-être plus de fibres pour ce type de déplacement que Lyon. Alors ben c'est vrai que bon, alors on pourrait scraper le chignon, mettre en opposition les deux types de déplacements. Alors effectivement,
excusez-moi, je vous interromps. Regardez cette dame qui est en train. Elle revient du marché avec ses emplettes sur son guidon. Voilà. Elle a un superbe vélo tout neuf. Visiblement, ça fait très très longtemps qu'elle n'a pas mis les mains sur un guidon, pour être poli. Parce que, bon... Et pourtant, elle est à l'aise.
Et elle a le droit.
Et ça, c'est parfaitement le droit, tout à fait. Bon, elle est un petit peu passée au feu rouge. Mais il faut bien penser que, vu que la façon dont elle est chargée, s'arrêter au feu rouge, ça représentait 100 mètres de trajet supplémentaire. Qui ferait un détour de 100 mètres simplement pour respecter le code de la route ?
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de vélos qui passent au feu rouge ? Le taxi manuel ?
Ah oui, extrêmement, oui. Presque l'intégralité des vélos. Bon, comme je disais tout à l'heure, au niveau de mes statistiques personnelles, c'est de 9 sur 10 qui n'appliquent pas le code de la route, oui, tout à fait.
Bon, il faut bien voir que le cycliste, parmi tous les gens qui se déplacent à Lyon, c'est le seul qui respecte le protocole de Kyoto, la loi sur l'air, l'agenda 21, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui prescrit un exercice quotidien d'une demi-heure. Il respecte enfin l'exigence du monde moderne qui veut qu'on soit efficace avec un minimum d'énergie. Et on voudrait que ce soit les seuls à respecter le code de la route ? Non, on s'efforce.
Non, effectivement, au niveau comportement, on peut avoir le même cas de figure de partout, hein, chez le mec en moto, le mec en voiture, etc., qui lui aussi se comporte extrêmement mal. Mais au niveau quantitatif, on se rend compte que là, effectivement, les vélos se comportent extrêmement mal. Alors bon, comme je disais tout à l'heure, la facilité fait que ce type de déplacement est tout de même extrêmement synonyme de liberté,
etc. Oui, elle est sur le trottoir, elle est sur le passage clouté, elle passe au rouge pour les piétons.
C'est le représentant des cyclistes qui le remarque.
Oui, absolument. Non, c'est déplorable. Elle aurait dû attendre au feu, mais bon, encore une fois, l'effort qu'on fait quand on redémarre au feu, il est rédhibitoire, surtout quand on fait un petit trajet. La ville n'est pas pensée pour les cyclistes. Un feu, c'est une catastrophe pour les cyclistes.
Est-ce que la ville, avec les vélos, ne devient pas n'importe quoi ? Un immense fouillis ?
Au contraire. Mais c'est la vie, c'est chacun se déplace en essayant de prendre en compte les déplacements de l'autre et les impératifs de l'autre. Une fois qu'on a l'habitude de circuler sur la chaussée, on y arrive. À terme, dans la presqu'île d'ailleurs, on devrait supprimer les feux rouges et tout ce qui est signalisation, et puis faire un petit peu ce qu'on fait soit à Ilkirch, Grafenstaden en Alsace, où on a supprimé tous les sens interdits pour les cyclistes, soit dans certaines villes de Hollande où on crée des zones de rencontre, c'est-à-dire des zones où chacun s'efforce de se déplacer au mieux en tenant compte des déplacements des autres.
Pour les voitures, il faut quoi dans les villes ?
C'est une question politique. On a obligé tous les gens à avoir des voitures, à se déplacer en voiture depuis après-guerre et au détriment des autres types de déplacements. Et maintenant, une espèce de machine arrière, l'automobiliste est un assassin, etc., etc. Donc on ne peut pas d'un côté faire en sorte que les gens les obliger en quelque sorte à avoir une voiture et changer en quelques années parce que c'est la mode, parce que bon, il y a une prise de conscience des gens, tenter de changer la façon de se déplacer. Je pense que c'est sur vraiment de très nombreuses années qu'on va changer le comportement des gens.
Je m'appelle Sylvain Puyla.
Utilisateur régulier ?
Utilisateur régulier, oui. Et très content. Après, il y a juste à composer le code, retirer un vélo. Après, il faut choisir le sien. Il faut vérifier lequel marche et lequel ne marche pas parmi ceux que l'appareil dit qu'ils fonctionnent.
A priori, s'ils sont...
Ils fonctionnent pas tous.
À l'écran, c'est qu'ils fonctionnent.
Pas tous. Pas tout le temps. Parce que des fois, il y a une vie de la chaîne en moins, le vélo qui... la roue qui est crevée, les freins qui ne marchent pas.
Donc, et là, vous les avez repéré le vôtre ?
Non, pas encore. Donc à ce moment-là, je regarde sur l'écran ce qu'il y a. Bon, celui-là, le 12, voilà, le plus près, il a l'air sympa. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du vélo ? Pour vous, c'est une...
J'adore. Franchement, c'est un truc super, quoi. Parce que les transports en commun bondés, les... Bon, à pied, voilà quoi, et puis en voiture, j'ai pas de voiture, puis en même temps, je trouve ça ridicule d'utiliser la voiture en ville. Donc, le vélo pour moi, c'était vraiment la bonne expérience. Quoi.
C'est une utilisation quotidienne pour vous ?
Ouais.
C'est un trajet travail-maison ou c'est un trajet loisir plutôt ?
Les deux, je vais autant à la fac qu'au boulot et que par exemple en soirée, quand les métros sont finis, bah, au moins on peut utiliser le vélo. Bon, après, le tout, c'est de savoir trouver la station où on peut déposer le vélo parce qu'elles sont souvent ou toutes vides ou toutes pleines. Parce que c'est assez pendulaire comme les horaires de travail, en fait, comme le métro aussi, mais bon. Après, il y a des petites techniques pour trouver les stations qui ne sont pas trop prises.
Point de vue sécurité, vous n'avez pas peur, la trouille dans les embouteillages ?
Non, mais bon, je connais beaucoup qui refusent de prendre le vélo à cause de ça. Un tempérament un peu casse-cou, ça va, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est vrai que les voitures ne font pas attention, les vélos non plus, enfin, faut pas... Mais non, ça va, moi, j'ai pas peur, en tout cas, ça va.
Le vélo en ville, c'est quoi ? C'est la mode ou c'est l'avenir ?
C'est l'avenir, forcément, je pense.
Quoi ?
Parce que écologique, parce que économique, parce que facile et pratique. Quoi.
T'as pris ma clé à potence ?
Bonjour.
Bonjour.
Claude Cordier, vous êtes Pascal Chopin, j'imagine.
Pascal Chopin, directeur régional de JC de Couronnade.
Fait une petite visite ?
Ouais.
Allez.
Alors là, c'est un petit peu encombré, mais parce qu'on a beaucoup d'activités, comme vous pouvez l'imaginer. Entre le contrôle des vélos qui nous arrivent du terrain, ensuite après, toutes les réparations mécaniques par poste de travail, le train avant, le train arrière, les freins, les pneumatiques, le rayonnage des roues... Le rétrofit, je dirais, des différentes opérations de maintenance.
Alors les inconvénients, on les connaît, c'est la dégradation. Il y en a beaucoup ou pas ? On nous disait...
C'est toujours trop. Vous savez, je vous dis, on a 10%, 10-12% du parc en maintenance quotidienne. Sur cette maintenance quotidienne, on peut considérer qu'il y a une part non négligeable qui est due à des incivilités, c'est-à-dire vraiment un usage qui est contre nature. Des cadres ou des roues voilées, et ça, ce n'est pas une simple utilisation. C'est vraiment un vandalisme récurrent dans une station, une roue voilée volontairement, le pneu coupé, la selle lacérée, voire brûlée. ça fait rapidement des dégâts, c'est facilement 4, 5, 6 000 euros de dégâts. Quoi.
Est-ce que vous attendiez à ça lorsque vous avez lancé Vélov, en l'occurrence, à beaucoup, un niveau important de dégradation quand même?
Non, sincèrement, pas à ce niveau-là. On pensait qu'il y aurait un usage un peu plus civil. On pensait qu'en plus, compte tenu du faible coût, puisque on va dire c'est quasiment gratuit, 5 euros annuel et 1 euro hebdomadaire, c'est gratuit. On aurait pu imaginer qu'avec un coût aussi modique, les gens, oui, respecteraient peut-être un petit peu plus. C'est aussi un peu la rançon du service rendu. Le système fonctionne 7 jours sur 7 et surtout 24 sur 24 heures. Force est de reconnaître qu'on a quand même plus de vandalisme la nuit, c'est très clair.
Alors, le système a besoin d'être régulé. Il se régule assez naturellement par les utilisateurs.
Oui. En majorité,
il se régule aussi par vous.
Oui, il se régule par nous, dans une proportion finalement assez faible, mais c'est de l'ordre de 20% et 80% en autorégulation.
Alors, quand on pose la question aux utilisateurs de Vélov, des avantages, ils les donnent puisqu'ils s'en servent et c'est ce qui prime, c'est clair.
Ouais.
Mais des inconvénients ressortent toujours les mêmes.
Oui.
Les inconvénients, c'est arriver à une station où il n'y a plus de bornes libres ou inversement, arriver à une station où il n'y a plus de vélos.
C'est vrai. C'est le problème, je dirais, de la suractivité à certains moments. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Dès la période, je dirais, d'avril jusqu'à septembre-octobre, tout le monde a envie d'aller boire un verre en presqu'île entre 20h et 23h, dîner au restaurant. Il est impossible, j'en guillemets, de réguler autant de vélos en instant T. C'est comme les parkings. Et à un moment donné, il n'y a plus de place. Il faut accepter, entre guillemets, le vélo en libre-service. Ça ne sera jamais gérer une science infuse avec une disponibilité totale à 100%. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est comme si on voulait amener tous les usagers qui vont, par exemple, au stade à Gerland, qui un jour de match exceptionnel, voudraient y aller à vélo. Ce n'est pas possible.
Allez.
Non,
avec ou pas?
Très court.
Moi, bah justement.
Pont de la Guillotière. Donc, vol d'oiseau, c'est à 400 mètres d'ici.
Et justement, vous avez l'habitude de faire des parcours comme ça?
Plutôt courts? Quand j'utilise, effectivement, c'est souvent des sauts de puce, effectivement, où je fais des petits trajets, mais ça me fait gagner un temps incroyable. Quoi. C'est tout l'intérêt pour moi, c'est pouvoir faire des petits trajets, mais ça me fait quand même gagner beaucoup de temps. Et donc voilà, mais je fais aussi des trajets plus longs, quoi. Ça m'arrive de traverser Lyon intégralement en fait avec un vélo.
Avec des problèmes de sécurité ou pas? Vous avez peur dans la circulation sur les
non,
routes?
Pas du tout. C'est vrai que je suis habitué à faire aussi du vélo, donc c'est vrai que j'arrive à anticiper et appréhender les risques et le danger, quoi. Donc je suis plutôt en sécurité. Voilà.
Dans beaucoup de villes en France, c'est le même prestataire qui a décroché le marché face à son concurrent américain Clear Channel. C'est le cas à Paris. Depuis le 15 juillet, l'abonnement Vélib est à 29 euros pour l'année, plus cher qu'à Lyon, 5 euros seulement, mais ville pilote. Les Lyonnais avaient en effet essuyé les plâtres avec 3 mois de rodage difficile. Mais 2 ans après, y compris financièrement, ils se frottent les mains. Vélov et Vélib à Paris rapportent de l'argent à la collectivité. Les explications sont données par Gilles Vesco, vice-président de la communauté urbaine de Lyon.
Le contrat, c'est très simple. Le Grand Lyon autorise le prestataire à mettre sa publicité sur l'espace public. Donc c'est une autorisation d'occupation du domaine public par JC Deco avec ses affiches. Et en échange, Deco, on lui laisse aussi 600 panneaux de pub sur l'ensemble du Grand Lyon, 57 communes.
Pour combien de temps?
Pour 13 ans, la durée du contrat est de 13 ans. Et en échange, JC Deco met à disposition du Grand Lyon 2200 abribus et 4000 vélos dont il construit les stations, il les équipe avec des vélos, il les entretient, il fait la régulation spatiale, donc zéro coût pour la collectivité. Et en plus, Jean-Claude Decaux donne un gros chèque de redevance d'occupation du domaine public de 18,3 millions d'euros sur 13 ans.
Ça veut dire que ça rapporte à la ville?
Ça rapporte à la ville non seulement le chèque de redevance, mais en plus le chiffre d'affaires des véloves, puisque même si 5% seulement des usagers payent quelque chose, puisque vous savez qu'il y a une demi-heure de gratuité qui est même portée à une heure pour les porteurs de cartes TCLI, qui est la carte des transports en commun,
Eh bien, pour vous donner un ordre de grandeur, le Grand Lyon a récupéré 600 000 euros de chiffre d'affaires sur 2006 et on va tangenter les 900 000 euros sur 2007. C'est-à-dire que c'est, non seulement ça ne coûte rien à la collectivité, mais en plus ça rapporte de l'argent.
On sait bien aussi que Deco s'est servi de la ville de Lyon. Vous, ça vous arrange d'un certain côté, mais ça arrange bien Deco parce que Deco a vendu son système.
Alors d'abord, le Grand Lyon se sert de Deco parce que c'est quand même l'affaire du siècle, si vous voulez. Vélov coûte quand même deux fois plus cher que ce qu'avait prévu Deco, c'est-à-dire que dans son business plan, le risque est de son côté. Donc c'est l'affaire du siècle pour la collectivité. Si la collectivité avait dû payer le prix réel, eh bien ça coûterait très cher. C'est-à-dire autour de 2500 euros par vélo et par an. Quand vous avez 4000 vélos, c'est 10 millions d'euros par an que devrait sortir la collectivité. Donc ça, c'est la prime à l'innovation. Parce qu'on a pris le risque et qu'on était devant et que ça a marché, parce qu'on y a mis aussi les ingrédients et la valeur ajoutée du Grand Lyon pour faire en sorte que Vélov marche. Mais Deco, effectivement, a, par la même occasion, une vitrine mondiale, une sorte de showroom, et nous en savons quelque chose, puisque le Grand Lyon reçoit une délégation française, européenne ou internationale par semaine
qui est
vient
venue, là.
Visiter le système Vélov. Alors, toutes les villes qui, aujourd'hui, sont en train de s'équiper, hein, c'est-à-dire Paris, Marseille, Aix-en-Provence, Orléans, Mulhouse, Nantes, Genève,
Besançon,
absolument. Sur l'international, vous avez Bruxelles, j'ai cité Genève. Vous avez Barcelone, Séville. Nous avons eu Yokohama, le maire de Yokohama, il y a quelques semaines. Et puis San Francisco et Chicago qui sont en train de préparer leur appel d'offres. Donc c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui, avec deux ans de recul, comme la plus importante innovation urbaine de ces dernières années, et qui nous est envié et copié par beaucoup de grandes villes.
La montée, avancer vers l'arrière. Merci.
Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des vélos, vous, en tant que machiniste? Il paraît que c'est compliqué pour vous.
Dans la rue de Rivoli, oui.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas tellement de place dans le couloir de bus. Il n'y a pas assez de place. Ils se mettent à droite, des fois à gauche. C'est dangereux. Ils font n'importe quoi, en plus.
C'est vrai?
Ouais, ils s'arrêtent au dernier moment. Ils tournent sans prévenir. Ils s'arrêtent pour monter sur le trottoir. C'est dangereux. Comme ils n'ont pas de feu stop, c'est ça qui est dangereux, parce que des fois on les suit derrière, on ne va pas les doubler parce qu'on a l'arrêt qui est juste là, donc on ne va pas le doubler pour se rabattre juste devant lui, donc on reste juste derrière lui, et d'un coup il pose le pied par terre, il s'arrête. Combien de fois j'ai failli leur rentrer dedans à cause de ça.
Je vous remercie.
De rien. Au revoir.
On peut descendre là?
Ouais, ouais, allez-y.
La panique, c'est qu'il y aura pas mal d'accrochages. Ça, c'est inévitable. Et ce qui est le pire, Richard Lenoir, il y a le couloir vélo. Les vélos, ils ne prennent pas ça, ils restent sur la chaussée. C'est ça qui est le problème.
Vous pensez que les taxis, pour le coup, sont opposés, d'une façon générale, au vélo dans Paris?
Bon, il y a des taxis qui apprécient, il y a d'autres qui n'apprécient pas. Mais c'est très mal fait, les chaussées. C'est ça qu'on veut montrer. Sinon, non, on n'est pas contre. Parce que chacun vit qu'on essaye de se comprendre, de faire doucement qui est la piste du vélo ou pas. Il faut accepter les vélos ou bien les motos. Mais que chacun essaye de rouler, de faire attention à l'autre.
Les accidents, c'est ce que tout le monde craint, à commencer par les cyclistes eux-mêmes. À Lyon, alors que le trafic des vélos a augmenté de 80% en 2 ans, y compris l'hiver, on enregistre seulement 6% d'accidents en plus, dont aucun accident grave ou mortel. À Paris, le parti pris de proposer 20 000 vélos nouveaux en 6 mois peut surprendre. C'est aussi une façon de les imposer dans les rues. Depuis le 15 juillet, 2,5 millions de trajets ont été effectués, une vingtaine d'accidents sans gravité enregistrés. Mais les risques et les inquiétudes sont là. Les voitures font peur aux vélos, qui font peur aux piétons. Yves Gascoin est responsable de l'association Les Droits du Piéton dans le Rhône.
On trouve des cyclistes, souvent d'ailleurs novices, débutants, qui se disent « je suis en légitime défense sur le trottoir ». Alors, premier jeu de quille. Et on a vu, et nous avons des exemples chez nous, la mamie, 80 ans, qui sort de chez elle et claque par un effet de guillotine. Elle est projetée au sol, fracture du fémur, etc. Par hospitalisation par un vélo. Donc, par ce jeu de domino-là, du plus fort du plus fort, chacun prenant ses aises, eh bien, à quoi aboutit-on? Et c'est secret, c'est discret, ça ne se voit pas, à refouler chez eux les plus faibles, les plus fragiles, ce qui est dégoûtant, quoi.
En l'occurrence, les piétons à rester chez eux, c'est ça?
Exactement, et les plus faibles, bien c'est... entendu. Encore une fois, c'est le vélo agressif. Et c'est... quand on prend les vélos, disons, chevronnés, qui ont la pratique, par chance, hein, les vélos font des infractions très nombreuses, ils grillent le feu comme les piétons, comme les automobilistes, etc. Chacun a son lot. Mais quand on prend les statistiques annuelles sur une année, eh bien, il n'y a pas vraiment très peu d'accidents vélo contre auto. Et ils n'ont pas augmenté malgré le triplement de la circulation vélo.
Alors Yves Gascoin, justement, le droit du piéton passe aussi par le code de la rue. C'est nouveau, ça?
Oui, le code de la rue est une réflexion qui a été initiée par le gouvernement précédent. Nous espérons qu'elle va se poursuivre sous l'égide du gouvernement actuel. C'est piloté essentiellement par le ministère de l'Équipement. Enfin, maintenant, c'est le grand ministère chargé de l'environnement. Il est intégré là-dedans. Donc là, nous avons pris pour modèle le code de la rue belge.
Et il comporte quoi, alors?
Qui est très bien fait. Eh bien, actuellement, le code de la route était fait essentiellement pour la voiture. Et puis, on s'était forcé de canaliser les gêneurs pour que ça se passe tant bien que mal. L'idée même, d'ailleurs, de les concentrer, les traverser sur des passages piétons, va bien dans ce sens. Hein. Donc, priorité, finalement, du plus fort par rapport au plus faible et au plus vulnérable. Bon, alors, le code de la rue renverse totalement la problématique et pose pour principe essentiel que le plus fort doit la protection au plus faible. Voilà. Donc, c'est un renversement complet. Par exemple, il est possible que, actuellement, le piéton qui se présente sur un passage piéton, je parle sans feu, hein, ordinaire, n'a quand même pas le droit de s'insérer. Il recommandait une certaine prudence, quoi. Il ne veut pas se jeter sous la voiture. La voiture engagée passe, c'est le code de la route. Dans le code de la rue, il n'est pas impossible qu'on ait un système à l'anglaise ou à l'heure, dans lequel le simple fait pour le piéton d'arriver sur la bordure du trottoir emporte l'obligation, mais cette fois légale, pour la voiture, de s'arrêter.
L'échéance pour ce code de la rue?
Je ne sais pas, mais peut-être un an encore. Tous les travaux techniques ont été quand même très avancés. Il sera poursuivi, je pense, parce qu'il est dans l'air du temps, hein, parce que tout le monde l'a fait, et finalement, et aussi parce que nous sommes quand même nettement en retard.
Alors Céline Lepeau, vous êtes ingénieur responsable de l'opération Vélib à Paris. On résume les avantages et les inconvénients. Les avantages.
Les avantages de Vélib, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la maintenance, de l'entretien de votre vélo. Vous n'avez pas à vous charger de son stationnement également. Et le stationnement des vélos dans les rues, la crainte associée de vol, etc. est vraiment un frein au développement de l'usage du vélo. Vous avez un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc y compris pour les déplacements nocturnes. Vous avez un vélo agréable, qui est certes un petit peu lourd, mais qui à l'usage se révèle parfaitement adapté à la circulation urbaine.
Alors, les inconvénients, vous n'allez pas en trouver. Alors, je vais vous les donner. 2 ans d'usage à Lyon, pas de vélo en station quand on arrive, ou plein de vélos, en l'occurrence toutes les bandes sont occupées, on ne peut pas poser le vélo, on rate son train si on arrive à la gare, ou des choses comme ça. Par rapport à un concept qui peut être intéressant, mais ce sont des inconvénients. Ou un vélo qui est détraqué, ou un vélo qui est dégradé. Vous y avez songé, tout ça?
Oui, mais vous savez, le vélo, c'est pas un robot, il ne se répare pas tout seul, etc. Nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on a regardé de près, Ceci dit, il nous semble qu'aujourd'hui, malgré ce que vous évoquez, les Lyonnais continuent à utiliser le système. Ça veut dire qu'il apporte quand même quelque chose. Il y a un gain qui est inévitable, qui est manifeste, malgré les aléas de parcours, effectivement. Donc effectivement, la régulation, c'est quelque chose d'important. Contrairement à la ville de Lyon, on a demandé, nous, au marché, de s'engager sur des indicateurs, des niveaux d'engagement de qualité de service. Donc, on va voir ce que ça donne, mais concrètement, on a fixé un indicateur qui est que les stations ne soient jamais vides ou ne soient jamais pleines plus de 3 minutes. Donc ça, ce sera des évaluations qui seront faites chaque mois et qui, pour motiver le prestataire, sont assorties de mesures financières d'intéressement si le prestataire est vraiment très bon dans le domaine.
Alors avec un certain nombre de personnes qui travaillent dessus, combien de personnel? C'est assez énorme quand même.
En tout, 300 personnes sont employées par la société JC Deco.
Combien d'ateliers?
Combien d'ateliers? On a une vingtaine d'ateliers, également une péniche atelier qui est en train de se mettre en place sur la Seine.
Et un certain nombre de camions qui vont circuler pour alimenter les stations, c'est
oui,
ça?
Oui, une vingtaine de camions, effectivement, qui vont s'occuper de la régulation des stations.
Vous attendez quoi, là?
Le bip. Mais ça doit faire un bip normalement quand on raccroche le vélo.
Et là
ça le fait pas, mais ça le fait pas toujours en fait.
Donc ça, vous avez intérêt à vérifier.
Ouais, mais quand ça le fait pas, je fais comment?
Il vaut mieux le refaire, redécrocher, refaire,
bah
parce que sinon.
Le problème c'est que je regarde la lumière verte.
Ouais.
Celle-là je peux plus le retirer. C'est ça le problème.
Donc a priori il a été raccroché.
Donc, normalement voilà ouais.
On va vous retirer vos 150 euros.
Ah non? Non.
Vous craignez de rouler en ville, par exemple, je sais
non.
pas, dans les voies de bus ou autre, non?
Ah, dans les voies de bus, je les prends pas moi en fait. J'ai un itinéraire, enfin j'ai fait mon itinéraire où je prends pas les voies de bus.
Les voitures, vous les craignez?
Un petit peu. Et du coup, je me suis fait mon itinéraire de manière détournée pour arriver à mon lieu de travail. C'est vrai que j'aurais un itinéraire plus rapide et plus direct, mais qui fait passer par des grands axes avec beaucoup de circulation. Et donc, non, ça je suis pas.
Du point de vue sécurité, c'est
oui,
quand même un peu
sécurité,
dangereux.
Ouais.
Bien, écoutez, je m'appelle Jean Laterrasse, je suis professeur à l'Université de Marne-la-Vallée et je suis directeur d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Ville, Mobilité, Transport, qui est un laboratoire de recherche publique qui compte une soixantaine de personnes. Laboratoire qui a été mis en place voici 4 ans, conjointement entre l'Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité, l'INRETS, l'École des ponts et l'Université de Marne-la-Vallée.
Alors justement, Jean Laterrasse, vous avez travaillé sur les transports et déplacements doux, et notamment le vélo en France. Le vélo en France, c'est nouveau?
Oui et non. La France est quand même un des pays qui, sur le plan, je dirais, culturel, a développé ce mode de transport, si je puis dire. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis 30 ou 40 ans, le vélo est essentiellement considéré en France non pas comme un mode de déplacement, mais comme un loisir ou comme un sport. Et donc, on a aujourd'hui, je pense, effectivement, à réapprendre à utiliser le vélo comme mode de déplacement.
Parce qu'on l'utilise moins en France que dans les pays européens. Il y a une sous-utilisation du vélo, c'est ça ou pas?
En tout cas, que dans les pays de l'Europe du Nord, oui, tout à fait. Tout à fait. Dans les pays de l'Europe du Nord, on voit la Hollande, on voit la Belgique ou même l'Allemagne ou la Suisse. Le déplacement en vélo est vraiment un mode de déplacement à part entière. Quand on regarde d'ailleurs les enquêtes dans ces pays, on trouve assez facilement que dans les zones urbaines, le vélo représente 15%, voire 20% des déplacements.
Ce qui n'est pas le cas en France.
En France, on est autour de 2% maximum, effectivement.
Est-ce qu'en parallèle, on remarque aussi une utilisation de la voiture importante, voire trop importante en France par rapport aux autres pays?
Alors effectivement, la France a une autre caractéristique par rapport aux autres pays, notamment européens, c'est que l'utilisation de la voiture y est plus intensive, et notamment dans les déplacements domicile-travail. Et je crois qu'il faut corréler ce fait à un autre élément qui est tout à fait important et sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de revenir, c'est que les agglomérations françaises sont plus étalées que la plupart des agglomérations européennes, en tout cas que les agglomérations de l'Europe du Nord.
Ça veut dire que lorsqu'on raisonne vélo, il ne faut pas raisonner simplement vélo, mais il faut raisonner déplacement global, politique globale.
Tout à fait, il faut raisonner système de déplacement. Et il faut raisonner aménagement urbain.
Mais le vélo, ce n'est pas suffisant. Ça ne peut pas être en soi une politique.
Non, le vélo ne peut pas à lui seul remplir tous les besoins de déplacement urbain, pour différentes raisons, et notamment celui des déplacements de plus longue distance. Il y a également toute une partie de la population qui, pour des raisons physiques ou pour différentes raisons, ne peut pas utiliser le vélo. Donc, je crois qu'il faut éviter de voir dans le vélo une sorte de solution miracle à tous les problèmes. Il est un élément de solution parmi d'autres, mais un élément seulement.
Il y a une mode, vélo ?
Il y a une mode pour développer les transports alternatifs à l'automobile, et je crois que c'est une mode tout à fait intéressante et qui répond, encore une fois, à un vrai besoin. Mais à partir de là, ce qu'il faut éviter, c'est qu'on ait une vision qui soit un peu irrationnel des choses. Il y a une mode pour le tramway, il y a parfois une mode pour le vélo. Il ne faut pas oublier que la voiture a un rôle à jouer en ville et qu'elle n'est pas toujours, d'ailleurs, sur le plan, de l'environnement, une mauvaise solution. Quand vous êtes à quatre dans une voiture, c'est un mode de déplacement bien adapté et relativement respectueux de l'environnement. Donc je crois qu'il faut, dans les politiques que l'on met en œuvre, essayer de combiner les atouts de tous les modes et trouver pour chaque mode les meilleures façons de l'utiliser. On parlait de la voiture, on développe aussi actuellement dans les villes, un peu comme cela se fait pour les vélos, des systèmes d'autopartage qui sont tout à fait intéressants et qui font que nous découvrons à notre tour des solutions qui existent dans d'autres pays européens.
Alors Jean Laterrasse, vous êtes chercheur dans votre unité de recherche. J'imagine que vous avez planché sur la ville de l'an 2020, je ne sais pas. L'avenir pour une ville, c'est quoi justement au niveau des transports ?
Alors l'avenir pour une ville, déjà je dirais en termes d'organisation spatiale. Je crois qu'aujourd'hui, depuis 50 ans en France, on a développé un type de ville qui est une ville extensive, qui consomme toujours davantage d'espace. Et on avait l'idée que la France étant finalement un pays peu densément urbanisé, on pouvait se permettre d'avoir des villes très étalées. Aujourd'hui, on sait que l'étalement consomme de l'énergie et qu'il est un des éléments, de ces fameux problématiques du changement climatique, en tout cas de ces émissions de gaz carbonique que l'on devrait pouvoir économiser. Et donc, dans ce contexte-là, la première chose, c'est sans doute de repenser la ville pour qu'on ait une économie plus raisonnable des déplacements. Donc je crois, si vous voulez, qu'il faut que la ville de demain intègre complètement cette dimension de ville plus rationnelle, de ville plus cohérente, de ville où l'on ait le souci d'avoir une localisation des activités, des services, des lieux d'emploi, des lieux aussi de loisirs, qui soit plus en cohérence avec l'endroit où nous habitons les uns des autres. Et je crois que de ce point de vue, il y a tout un ensemble d'actions, pour certaines sont déjà engagées, mais qui doivent être menées dans les années, dans les décennies qui viennent.
Vélib Vélov, la ville à vélo, c'était un reportage de Claude Cordier à Lyon et Paris. Lyon qui a donc été une ville test pour l'entreprise JC Deco. Et si les usagers, malgré les failles du système, en sont plutôt contents, il faut cependant souligner que la quasi-gratuité du service a un coût visuel pour les Lyonnais. Le nombre de panneaux publicitaires Deco est en effet passé de 1350 à 2400. Cela faisait partie du contrat et certains s'en plaignent. À Paris, la négociation a été différente. Le nombre de panneaux publicitaires est en baisse, de 2000 à 1628, mais ils changent de nature, ils seront désormais déroulants. Précisons que c'est grâce à Vélib que Jean-Claude Deco a pu garder la main sur l'affichage public dans la capitale. La réalisation de ce reportage était signée Anne Lioro, assistée d'Audrey Ripouille. Merci à Jean-Louis Deloncle pour le mixage. L'émission est préparée et présentée par Valérie Cantier et Angélique Bouin. Et rappelons-le, vous pouvez la réécouter à la carte pendant un mois sur Internet. L'émission sur l'Irak de la semaine dernière est donc encore en ligne pour ceux qui nous ont écrit et qui souhaitent l'écouter. Le téléchargement, lui, est disponible pendant une semaine. Je vous remercie de votre fidélité sur France Inter et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Nous irons en Iran avec Philippe Reltien. Tout de suite après le journal, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Je vous souhaite à tous une excellente journée.